Bonjour à tous les Auroviliens. Ganga Lakshmi vous souhaite une belle fête de Noël, une belle fête de fin d'année. Je vais vous lire aujourd'hui de Sri Aurobindo, la manifestation supramentale sur la Terre, traduit de l'anglais par Douce Mère. Le titre de ce chapitre s'appelle « Le corps divin ». Mais quelle serait la forme, la structure interne et externe, les instruments de ce corps divin ? L'histoire matérielle du développement du corps animal et humain fait que ce corps est enchaîné à un système compliqué d'organes minutieusement élaboré et un fonctionnement précaire qui, à tout moment, peut se changer en désordre. Un fonctionnement susceptible de n'importe quelle désorganisation générale ou locale, soumis à un système nerveux qu'un rien dérange, commandé par un cerveau dont les vibrations sont supposées mécaniques et automatiques et non sous notre conscient contrôle. Suivant les matérialistes, tout cela est exclusivement un fonctionnement de la matière, dont la réalité fondamentale est chimique. Mais devons croire que ce corps a été bâti par l'action d'éléments chimiques qui échafaudent les atomes, molécules et cellules et qu'en outre, ceux-ci sont les seuls agents et les seuls pilotes à la base de cette structure et de ces instruments physiques compliqués, lesquels sont la seule cause mécanique de toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos sentiments. L'âme est une fiction. Le mental et la vie, une pure et simple manifestation ou figuration matérielle et mécanique de cette machine. Laquelle est combinée et automatiquement mise en mouvement par les forces inhérentes à la matière inconsciente et automatiquement mise en mouvement par les forces d'illusion de conscience dedans. Si telle était la vérité, il est évident qu'une divinisation ou transformation divine du corps ou de quoi que ce soit d'autre serait une pure illusion, une imagination, une chimère impossible et insensée. Mais même si nous supposons qu'une âme, une volonté consciente soit à l'œuvre dans le corps. Mais même si nous supposons qu'une âme, une volonté consciente soit à l'œuvre dans ce corps, elle ne pourrait pas parvenir à une transformation divine sans un changement radical dans l'instrument corporel lui-même et dans l'organisation de son fonctionnement matériel. L'agent, transformateur, âme ou volonté, resterait enchaîné. Son travail serait bloqué par les limitations immuables de l'organisme physique, entravé par l'animal originel inchangé en nous et imparfaitement changé. Les possibilités de désordre de dérangements, de maladies qui sont naturels à cette organisation physique seraient toujours là et ne pourraient être prévenus que par une vigilance constante ou par une intervention obligatoire, perpétuelle de l'habitant et maître spirituel de l'instrument corporel. Ceci ne saurait s'appeler un corps vraiment divin. Un corps divin serait naturellement et perpétuellement libre de tous ses troubles. Cette liberté serait la véritable vérité normale et naturelle de son être, et par conséquent, elle serait immanquable et invariable. Une transformation radicale du fonctionnement, peut-être même de la structure, en tout cas certainement des impulsions et des forces motrices trop mécaniques et trop matérielles du système corporel est impérieusement nécessaire. Alors il y a une question, quel agent trouverons-nous pour opérer un changement si considérable et réaliser une libération si totale? Quelque chose doit exister en nous, doit se développer. Peut-être une partie centrale et encore occulte de notre être, qui contient des forces, mais dont les pouvoirs dans notre constitution actuelle, pratique, ne représentent qu'une fraction de ce qu'il pourrait être. S'il prenait toute la nature et le commandement, il serait capable d'opérer la transformation physique nécessaire avec toutes ses conséquences, à condition qu'il fasse appel à l'aide de la lumière, de la force de l'âme et de la conscience de vérité supramentale. Nous pourrions trouver certains indices à ce sujet dans le système des chakras, tel qu'il est révélé par la connaissance tantrique et reconnu dans les divers systèmes de yoga. Ces chakras, ou centres de conscience, sont la source de tous les pouvoirs dynamiques de notre être. Ils organisent leur action à travers divers plexus qui s'échelonnent en une série ascendante depuis le centre physique le plus bas, le Mooladhara, à la base de la colonne vertébrale, jusqu'au centre mental et spirituel le plus haut, lotus aux 1000 pétales, où la nature ascendante, le pouvoir symbolisé par le serpent des tantriques, rencontre le Brahman et se libère en l'être divin. Ces centres sont fermés ou à demi fermés en nous, et il faut les ouvrir pour que leur potentialité complète puisse se manifester dans notre nature physique. Mais une fois ouvert et complètement actif, il n'est guère de limite que l'on puisse fixer au développement de leur puissance et de la possibilité d'une transformation totale. Une autre question, Mais quel serait l'effet de l'émergence de ces forces et de leur action libérée, divine, sur le corps lui-même? Quelle serait leur connexion dynamique avec le corps et leur action transformatrice sur la nature animale qui est encore là, avec ses impulsions animales et son fonctionnement grossièrement matériel? Nous pouvons considérer que le premier changement inévitable serait la libération du mental, de la force de vie, des instruments physiques subtils et de la conscience physique. Leurs activités deviendraient plus libres, plus divines. Les opérations de leur conscience seraient illimitées et s'étendraient à plusieurs dimensions. Les pouvoirs supérieurs jailliraient largement au grand jour. La conscience corporelle elle-même se sublimerait avec ses instruments et ses facultés. Elle deviendrait capable de manifester l'âme dans le monde de la matière. Les sens subtils à présent cachés en nous pourrait venir à la surface et fonctionner librement. Les sens matériels eux-mêmes pourraient devenir des intermédiaires ou des canaux pour percevoir ce qui est maintenant invisible pour nous et découvrir bien des choses autour de nous qui, pour le moment, sont insaisissables et voilées à notre connaissance. Les impulsions de la nature animale pourraient être solidement contrôlées, purifiées et subtilisées de manière à servir d'auxiliaire au lieu d'être un encombrement, et ainsi transformées, elles pourraient prendre part au fonctionnement d'une vie plus divine. Mais même tous ces changements laisseraient encore un résidu de fonctionnement matériel qui garderait leurs vieilles habitudes et n'obéirait pas à la direction supérieure. Et si ce résidu ne peut pas être changé, tout le reste de la transformation risque d'être mise en échec et incomplet. La transformation totale du corps semble exiger un changement suffisant dans la partie la plus matérielle de l'organisme, dans sa constitution, son fonctionnement et la structure de sa nature. En outre, on pourrait croire qu'une maîtrise complète devrait suffire. Une connaissance de l'organisme est une vision de son fonctionnement invisible, une maîtrise effective qui règle ses opérations conformément à la volonté consciente. Ce genre de possibilité a été réalisé et l'on affirme qu'il fait partie du développement des pouvoirs intérieurs chez certains individus. Arrêter la respiration tout en gardant l'équilibre de la vie du corps, sceller hermétiquement et à volonté non seulement le souffle, mais toutes les manifestations vitales pendant de longues périodes. Arrêter volontairement le cœur également, tandis que la pensée, la parole et les autres activités mentales continuent sans interruption. Tous ces phénomènes et bien d'autres, témoignant du pouvoir de la volonté sur le corps sont des exemples connus et bien prouvés de ce genre de maîtrise. Mais ce sont là de simples succès intermittents et sporadiques. Ce n'est pas la transformation. Il faut un contrôle total, une maîtrise permanente habituelle. En fait, il faut une maîtrise naturelle. Mais même si l'on y parvenait, il faudrait encore quelque chose de plus fondamental pour opérer la libération complète et changer notre corps en un corps divin. On pourrait soutenir aussi que la structure organique du corps, autant que sa forme extérieure fondamentale, devrait continuer d'exister comme une base matérielle indispensable pour garder le lien avec la nature terrestre et faire la jonction entre la vie divine et la vie de la terre, et assurer la continuité du processus évolutif en empêchant une rupture vers le haut, un éclatement hors de l'évolution, dans un état d'être qui appartiendrait à un plan supérieur et à proprement parler, et non à une réalisation divine sur la terre. Prolonger l'existence même de l'animal dans notre nature en le transformant suffisamment pour qu'il devienne un instrument de la manifestation et non un obstacle serait indispensable à la continuité, à la totalité évolutive. L'animal serait nécessaire en tant que véhicule vivant, Vahana, du Dieu qui émerge dans le monde matériel et qui devrait accomplir les œuvres et les merveilles de la vie nouvelle. Alors voilà, de la vie nouvelle. Alors aujourd'hui, je termine la manifestation supramentale de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par la mère, et le chapitre « Le corps divin »« Divine Body ». Thank you, Sri Aurobindo and the Mother. Thank you, Priya. Thank you, Stefano, Ganga, Lakshmi.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dome.